Voici l'abécédaire de la der des der. Comme OGM. Plus de 10 ans qu'on entend causer des OGM, les organismes génétiquement modifiés. Et plus de 10 ans que la bataille fait rage, que les gens se sont levés pour dire non. Des hectares et des hectares de champs fauchés, de procès gagnés et d'autres pas, des gens informés, des gens révoltés. Le 29 septembre 2011 a eu lieu à Colmar le procès qui opposa l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique, à 60 faucheurs volontaires. Les prévenus revendiquent la destruction de 70 porte-greffes de vignes transgéniques cultivées par l'INRA en plein champ dans le cadre de recherches expérimentales. Aujourd'hui, 80% des Français sont contre les OGM. Et pourtant, ils sont déjà partout. Et on a fait mine de nous demander notre avis il y a quelques années, rappelez-vous, une grande consultation nationale sur Internet qu'ils disaient. Tu parles, presque personne n'était au courant, leur site était en maintenance presque en permanence, alors que la consultation ne durait déjà que 15 jours. En 2005, ils ont reçu ainsi 800 réponses. C'est un peu juste hein, pour une grande consultation nationale. Mais bon, c'est ça, la démocratie directe à 2.0, elle a bon dos. Aujourd'hui, la présence d'OGM doit être signalée sur l'emballage des produits alimentaires s'il y en a plus de 0,9%, tout de même, on frôle le 1%. Mais de nombreux agriculteurs et consommateurs réclament quant à eux un étiquetage de produits sans OGM, tant ils tendent à se faire rares. On retrouve des OGM dans de nombreux produits préparés sous forme de farine, flocons, semoule, amidon ou encore lécithine. Mais c'est surtout dans les produits animaux qu'ils sont massivement présents, car les animaux issus de l'élevage sont eux nourris de soja importé, les fameux tourteaux de soja. Et c'est là tout le paradoxe de l'Europe. Elle importe massivement du soja OGM, tolérant à l'herbicide glyphosate, alors que ce soja n'est pas autorisé à la culture sur son propre sol. Pour nourrir du bétail, l'Europe doit importer près de 80% de ses protéines végétales du Brésil et de l'Argentine. Or, on sait bien que ces monocultures d'exportation sont un facteur aggravant de la déforestation dans ces pays. La France, qui produit pourtant 55% de ses protéines végétales, est le plus gros importateur de soja avec 4 millions de tonnes par an destinées à l'alimentation des animaux d'élevage. La Commission européenne estime que près de 95% du soja importé en Europe sont génétiquement modifiés. Et malgré cette situation, la récente proposition de réforme de la PAC en octobre 2011 a fait l'impasse sur la relance des plantes légumineuses en Europe qui permettrait de réduire la dépendance au soja importé, expliquent les membres du réseau pour une autre PAC. Et même dans le bio, les taux d'acceptabilité de traces d'OGM sont revus à la hausse régulièrement, tel un constat d'échec. Bah oui, on ne peut pas garantir qu'une plante OGM n'essaime pas à tout vent. Eh ben non, on ne peut pas confiner des cultures en plein champ. Il y a des oiseaux, des insectes, tous ces facteurs impondérables qui sont là pour polliniser. Et ils le font en plus. Du coup, on se retrouve face à l'épineux problème de la prolifération de semences transgéniques dans la nature, auquel les industries semencières et les législateurs européens répondent en tentant d'imposer un seuil de contamination des semences toujours plus élevé. Et ce qui se profile derrière cela, c'est une contamination exponentielle des milieux agricoles et naturels. Car toute contamination des semences ne peut qu'augmenter d'année en année au fil des saisons de culture. Accepter la moindre contamination des semences, c'est accepter l'augmentation continue et irréversible de la contamination dans les champs et dans les aliments. Entretien avec Jacques Testard, biologiste, docteur en sciences, directeur de recherche honoraire à l'INSERM et ex-président de la CFDD, Commission française du développement durable de 1999 à 2003. Il est connu pour avoir donné naissance au premier bébé éprouvette en France en 1982. Entretien réalisé en 2001.
qui me paraît le plus grave, c'est que les risques, on les envisage. Ce n'est pas bien sûr les experts qui les envisagent, c'est les associations essentiellement qui les ont envisagés. Mais les avantages, personne n'en parle, on imagine qu'ils sont là, qu'ils sont réels. Oui. Or, à ma connaissance, il n'y a aucun rapport scientifique, comme les aiment les experts, chiffré, qui démontrerait un avantage pour les consommateurs, voire même pour les agriculteurs, des plantes transgéniques. C'est-à-dire qu'on est là en train de monter un système dans lequel, pour le moment, c'est des balbutiements techniques. Mmh. Donc c'est quelque chose qui ne marche pas encore vraiment et qui d'ailleurs a ruiné les planteurs de coton américains, par exemple, il y a 3-4 ans, ont été ruinés grâce à un coton transgénique qui devait résister à un parasite, lequel a beaucoup apprécié ce coton, mieux qu'un coton ordinaire, et a tout bouffé. Donc ça ne marche pas terrible, mais ça n'est pas dit. Et tout le monde fait comme s'il y avait un avantage de production, on dit même qu'on va nourrir le monde entier avec ça, alors qu'en fait, rien n'est montré. Ce qui, bon, même si un jour, et je pense que ça va venir, il y aura une efficacité de ces plantes transgéniques, le fait qu'en l'absence de cette efficacité, on raisonne comme si ça servait à quelque chose, ça démontre qu'on est dans le domaine de l'idéologie ou du mercantilisme, et pas du tout dans le domaine de l'aide à l'humanité. Oui. Alors on peut évoquer, par exemple, cet aspect qui est souvent revendiqué par les défenseurs des plantes transgéniques, c'est-à-dire les industriels et les experts qui travaillent pour eux, qui est que la productivité des végétaux est actuellement insuffisante pour nourrir le monde et qu'il va donc falloir l'augmenter. Alors c'est complètement faux. On a actuellement une surproduction. Ce qui ne va pas bien, c'est la distribution. On ne voit pas comment d'augmenter la production encore grâce aux plantes transgéniques, ça permettra de changer la distribution. Ça fera beaucoup plus de stocks à détruire, on en a déjà plein. Donc ça n'est absolument pas une solution. La solution est politique. Elle n'est pas de ce côté-là. En plus, on laisse entendre que la population du globe va augmenter indéfiniment, alors que tout le monde sait bien que d'ici 20 ans, 30 ans au maximum, elle atteindra un apogée qui sera de l'ordre de 10 milliards, 12 maximum, et qu'ensuite ça va descendre. Donc il n'y aura pas une population de 50 milliards, 100 milliards, comme si c'était exponentiel et qu'on soit obligé de courir derrière en produisant des choses artificielles pour que tout le monde ait à bouffer. Donc tout ça est construit sur du vent. Ça fait un peu penser à des start-up qui marchent très bien dans l'économie, c'est-à-dire qu'on propose un produit à la vente sans avoir besoin de démontrer qu'il a de l'effet. Si on a un discours assez séducteur, on est capable de ramasser des capitaux et de faire des actions en bourse, de faire monter une bulle qui n'est qu'une bulle et qui éclatera quelques années après, mais entre-temps on peut faire fortune. Alors c'est un peu le même système, donc c'est ça qui me paraît le plus grave finalement dans tous les développements aujourd'hui autour de technologies qui n'ont pas fait leurs preuves.
Les grands semenciers tentent encore et encore de nous faire avaler des OGM et de généraliser leur usage. Et ils nous en ont déjà recouvert la planète. En 2006, les surfaces cultivées en organismes génétiquement modifiés se situent essentiellement sur le continent américain, ainsi qu'en Chine et en Inde. Il y en a un petit peu partout ailleurs. Les mesures de la surface cultivée en OGM sont principalement rassemblées par l'International Service for the Acquisition of Agribiotech Applications, l'ISAHA, un organisme dont l'objectif est la promotion de l'usage des OGM dans les pays du Sud, Asie, Amérique latine et Afrique, et dont les mesures sont donc contestables. Selon le rapport 2008 de l'ISAHA, 125 millions d'hectares étaient cultivés avec des plantations OGM en 2007, principalement et dans l'ordre du soja, du maïs, du coton et du colza. Faisons maintenant un petit retour en arrière. En 1997, les OGM arrivent sur le marché européen. Des semences de céréales attendent d'être diffusées auprès des agriculteurs, menaçant de contaminer les champs voisins. Face aux hésitations du gouvernement, la Confédération paysanne, dont on commence à entendre parler, se lance dans une série d'opérations contre les plantations et les entrepôts de semences transgéniques, avec des actions très médiatisées comme le démontage du McDo de Millau et les fameux fauchages de champs OGM. Plusieurs procès ont lieu et, en 2003, deux figures du syndicat, José Bové et René Rizel, écopent de plusieurs mois de prison ferme. Depuis, le combat n'a jamais cessé. Et rien n'est gagné car les semenciers redoublent d'inventivité pour faire passer les OGM en douce. Ainsi, sous prétexte de biosécurité, le programme de recherche Transcontainer, financé par l'Union européenne, met au point de nouveaux OGM rendus clandestins par des gènes suicides qui disparaîtront de la plante avant qu'elle ne soit vendue aux consommateurs. Ou comment contourner le principe de traçabilité en effaçant ses traces? Pas vu, pas pris. Ils bossent aussi sur des plantes zombies qui sont stériles si elles ne sont pas arrosées par des produits chimiques brevetés. Et puis il y a aussi les OGM clandestins. Alors que le brevet sur les variétés impose de rendre publique l'information sur les méthodes de sélection utilisées, le certificat d'obtention végétale autorise à garder secrètes les techniques de modification génétique autres que la transgénèse. Des plantes manipulées de manière tout aussi hasardeuse que les OGM sont ainsi vendues aux consommateurs. Par exemple, des mutations génétiques provoquées par la radioactivité nucléaire, sympa, la fusion de cellules d'espèces différentes, les nanoparticules. Or, on sait aujourd'hui que les OGM sont un échec patent en termes d'agriculture et que les objectifs annoncés de nourrir les 7 milliards d'humains de la planète sont incompatibles avec ce mode de production vorace en énergie fossile et en vie humaine. Ainsi, l'Inde est aujourd'hui confrontée au plus fort taux de suicide d'agriculteurs au monde. Ces 10 dernières années, à cause de l'agriculture intensive et des OGM, le pays a perdu 200 000 fermiers qui se sont suicidés, au rythme de 2 agriculteurs qui se tuent toutes les heures quelque part dans le pays. Comment sont-ils arrivés là ? La révolution verte, lancée dans les années 40, la destruction de l'agriculture vivrière locale et les OGM sont autant de réponses à cette vague de suicides individuels ou collectifs. En Inde, le coton génétiquement modifié ou coton BT de la firme Mosanto occupe près de 90% des surfaces réservées à cette récolte. Commercialisé depuis 1996, ce dernier intègre des bactéries produisant des toxines mortelles contre la chenille Lépidoptère et le charançon des capsules. Le BT élimine spécifiquement ces insectes qui s'attaquent aux capsules des plantes. Il permet donc, en théorie, de réduire les pertes sur une plantation et de faire des économies en utilisant moins de pesticides. Dans les premières années de son utilisation, le coton BT a suscité beaucoup d'enthousiasme de la part des observateurs. L'INRA, en 2001, évoquait une hausse du rendement pouvant aller jusqu'à 80% pour une baisse de 70% de l'épandage des pesticides. Mosanto a fait miroiter aux paysans des rendements mirifiques s'ils acceptaient de planter exclusivement des semences génétiquement modifiées. Or, 10 ans plus tard, le BT a eu cet effet pervers d'ouvrir les champs à de nouvelles générations d'insectes plus résistants. Chenilles, araignées, punaises se multiplient et la sophistication des semences OGM pour faire face à ces menaces fait flamber les prix. Les graines sont devenues 4 fois plus chères que les semences classiques. Le marché cloisonné par Mosanto n'offre pas beaucoup de choix aux fermiers. Dominique Guillet, fondateur de Cocopelli.
En Inde, il y a tellement de paysans qui déposent le bilan. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils se suicident, soit individuellement, soit collectivement, ou bien ils vont s'entasser dans les bidonvilles, ou bien ils deviennent journaliers sur leur propre terre qu'ils ont vendue soit à Cargill, soit aux banques, pour rembourser les prêts qu'ils ont contractés pour payer l'agrochimie et les semences d'OGM ou les semences hybrides F1 qui valent très très cher sur le marché, alors qu'avant les paysans avaient accès à leurs propres semences qui refaisaient d'année en année. Donc cette révolution verte, c'est un énorme canular en fait.
Ce système est en effet extrêmement pervers. Il fait rentrer le paysan dans un cercle infernal où il est pieds et poings liés au semencier. Cet air devenant un simple support et lui un exécutant, qui n'est plus maître de ses choix de culture, de son calendrier de travail, ni de ses sélections de plantes. Il est tenu par contrat de semer telle ou telle variété de plantes transgéniques. Mais on lui vend aussi les intrants qui vont avec. Eh oui, parce que le coton BT, par exemple, n'est génétiquement modifié que pour contrer certains insectes, comme on l'a vu. Mais ce n'est pas une plante viable pour autant. Il faut lui mettre des engrais chimiques auxquels les plantes sont adaptées. Donc, d'une, les graines, qui avant étaient gratuites puisque le paysan gardait une partie de sa récolte pour ressemer plus tard, sont devenues payantes. Et en plus, on est tenu d'acheter les engrais qui vont avec. Et même si tu ne plantes pas des OGM, mais que tu es lié à un gros semencier, celui-ci peut t'imposer de faire un essai en plein champ. Claude Bourguignon, biologiste agronome.
Quand des paysans se suicident, ils se suicident avec les pesticides. L'agriculteur ne se tue pas au fusil, il se tue avec le produit qui a tué sa terre. C'est, symboliquement, c'est très très lourd. Et ça m'a toujours impressionné comment on peut ouvrir une bouteille de pesticides et puis la boire. Il faut vraiment être au fin fond du rouleau.
Bon, bien sûr, c'est toujours la même histoire. Et bizarrement, toujours les mêmes protagonistes. Un jeu de lobbyistes, de gouvernants assoiffés d'argent et de grands semenciers. Les Bayer-Bosch, Monsanto et autres Syngenta, qui, rappelons-le, ont fait fortune en temps de guerre en recyclant leur gaz de mort en engrais. quelques exemples pour s'en convaincre. L'entreprise Bayer fut fondée le 1er août 1863 en Allemagne, puis intègre l'IG Farben, un conglomérat d'industries chimiques allemandes qui émergèrent pendant la Première Guerre mondiale et devint l'une des pièces maîtresses de l'économie de guerre allemande. Quand les Alliés démantelèrent l'IG Farben après la Seconde Guerre mondiale pour son implication dans des crimes de guerre, Bayer réapparut en tant qu'entreprise distincte, tout comme le groupe de sociétés BASF. En 2002, Bayer AG acquiert la branche agronomique d'Aventis, Aventis Crop Science. Celle-ci devient alors Bayer Crop Science AG. Cette branche s'occupe d'agrochimie, entre autres de pesticides comme le gaucho, et de semences génétiquement modifiées, céréales, coton, etc. Monsanto, sans doute la plus célèbre, est une entreprise fondée en 1901 aux États-Unis et est aujourd'hui spécialisée dans les biotechnologies végétales. En tant qu'entreprise de produits chimiques, son nom est associé à celui des PCB et de l'agent orange, massivement utilisé par l'armée américaine lors de la guerre du Vietnam. Détentrice d'un brevet aujourd'hui périmé sur le glyphosate, herbicide total qu'elle commercialise sous le nom de Roundup, Monsanto est également un des principaux producteurs de semences génétiquement modifiées. Selon le rapport 2006 de l'Association indépendante des Amis de la Terre, près de 90% de toutes les variétés OGM commercialisées au monde contiennent des traits génétiques Monsanto. Ces OGM ont été modifiés pour être soit résistants à un herbicide tel que le Roundup, commercialisé par Monsanto lui-même, soit pour que les plants produisent un insecticide tel que la toxine BT, produite par la bactérie Bacillus thuringiensis. Et puis, il y a le fameux « Terminator ». Ce terme correspond au brevet détenu par la compagnie Monsanto et désigne une technique consistant à introduire un transgène tueur qui empêche le développement du germe du grain récolté. La plante se développe dans les conditions habituelles, donne une récolte normale, mais elle produit un grain biologiquement stérile. Les paysans sont contraints de racheter chaque année de nouvelles semences et de les arroser copieusement d'intrants vendus par le même semencier. Il devient un sous-traitant à qui on dicte les pratiques sur ses propres terres. L'entreprise a fait et continue de faire l'objet d'enquêtes et d'actions en justice concernant à la fois les produits chimiques ou issus du génie génétique qu'elle met sur le marché et aussi ses méthodes de lobbying. Elle est accusée de promouvoir des produits nocifs pour la santé et l'écosystème, de faire de la publicité mensongère et de falsifier les résultats d'enquêtes scientifiques. Issue de la fusion en novembre 2000 des divisions agrochimiques des sociétés AstraZeneca et Novartis, Syngenta est une société suisse spécialisée dans la chimie et l'agroalimentaire. Elle commercialise entre autres le maïs BT génétiquement modifié. Ce sont eux qui vendent le pesticide neurotoxique Cruzer, souvent mis en cause dans la surmortalité des abeilles. Syngenta est aussi accusée d'avoir employé une milice privée qui intervint au Brésil le 21 octobre 2007 contre une occupation par le mouvement des travailleurs sans terre. Cette intervention s'est soldée par la mort de deux personnes.
Je pense personnellement sur ce problème des OGM que d'avoir orienté le danger vers le problème alimentaire, c'était pas forcément quelque chose, c'était pas forcément ce qu'on pouvait faire de mieux. Il me semble que le plus grand danger n'est pas alimentaire, on peut pas dire qu'il y en a pas, mais c'est celui qu'on peut le plus facilement contre-attaquer. En revanche, le danger, on pourrait dire social, humain, politique, celui-là, il est évident, complètement. C'est-à-dire la concentration d'industriels qui vont avoir les clés de l'alimentation mondiale, qui pourront faire un chantage sur tous les États, c'est dramatique. Et c'est beaucoup plus grave que le risque même qui peut exister d'allergie en consommant une plante. Bon, je crois que ça, c'est beaucoup plus grave.
Et c'est aussi l'histoire d'un monopole tentaculaire dont le projet plus vaste est la mainmise sur l'agriculture mondiale.
Jusqu'en 1961, les multinationales d'agrochimie avaient commencé à prendre le contrôle de la chaîne alimentaire. Mais ils n'avaient pas pris le contrôle de la semence. Et la semence, c'est quand même le début de la chaîne alimentaire. Celui qui contrôle la semence, il contrôle la totalité de la chaîne alimentaire, il contrôle l'humanité. Donc en 1961, ils se sont donné un cadre juridique qu'on appelle l'UPOV. À partir de ce moment-là, il y a eu une offensive tout azimut. Ils ont racheté un millier de semenciers en l'espace de 30 ans et ils ont joué au Monopoly. Au jour d'aujourd'hui, tu as 5 multinationales qui contrôlent 75% de la semence potagère planétaire. Le numéro 1 étant évidemment Monsanto. Bien. À partir du moment où ils ont racheté tous les semenciers du monde, ils ont éradiqué toutes les anciennes variétés qui se reproduisaient conformément au type. Ils les ont remplacées par des hybrides F1, qui génèrent ce qu'on appelle un marché captif, parce que le paysan, le maraîcher et le jardinier sont obligés de racheter des semences tous les ans, vu que par définition, une semence d'hybride F1 est soit stérile, soit dégénérescente. Les hybrides F1 totalisent 99,5% du catalogue national pour les tomates. Et si tu ouvres la page aux melons, aux courgettes, aux brocolis, aux choux, parfois on est, au jour d'aujourd'hui, à 100% de variétés hybrides F1. Et donc il est interdit de commercialiser, de cultiver, de distribuer des semences de toute variété qui ne soit pas inscrite sur cette liste nationale.
Et surtout, les OGM ont un autre objet. Ils servent de cheval de Troie à des gens qui ont comme projet de s'approprier le patrimoine génétique de la planète, de s'approprier ce qui est notre bien commun, tous.
Prendre le contrôle de l'alimentation humaine, déposséder les agriculteurs du pouvoir de faire des semences et rendre cette pratique illégale, et pousser les institutions européennes et mondiales à voter des lois pour interdire les préparations et les intrants naturels, comme le purin d'ortie par exemple. Et surtout, codifier ce qu'on a le droit de planter ou pas, pour en finir avec les variétés anciennes robustes et adaptées à leur environnement. Et pour que les agricultures locales vivrières soient prises en étau. Voilà le projet global de ces sociétés agroalimentaires.
Donc on voit bien que c'est un projet politique qu'ils ont, c'est un projet de pouvoir, c'est pas un projet d'efficacité technique qui serait éventuellement justifié. C'est vraiment un projet de pouvoir, c'est de prendre en main avec un coup de bluff le territoire de l'alimentation et ensuite, bon, que ça marche ou que ça marche pas, ils auront les clés puisqu'ils se concentrent de plus en plus avec une espèce d'artifice pour le moment. Ouais. C'est quand même une situation assez extraordinaire.
Face à cette véritable machine de guerre lancée contre nous, contre le vivant et contre ce qui fait partie du bien commun de l'humanité, on peut se sentir désarmé. Mais des solutions existent et de nombreuses personnes à travers le monde ont lancé l'offensive. Bon, ça s'appelle pas Germinator, les médias n'en parlent jamais et ils n'ont pas de nuées de VRP lâchées à travers le monde avec des valises pleines de bifetons, comme disent les laboratoires Merckx. Non, ce sont les producteurs de semences alternatives chez qui vous pouvez vous fournir en graines et qui remettent au goût du jour des variétés anciennes, robustes, qui constituent un terroir inépuisable. Ici, l'association Cocopelli nous fournit un bel exemple. Elle diffuse en France et dans le monde entier une collection de plus de 3000 variétés de semences potagères anciennes, librement reproductibles et issues de l'agriculture biologique. Elle défend la protection des ressources génétiques, la protection de l'humus par des pratiques d'agriculture durable et l'aide aux communautés rurales des pays du tiers-monde par le don de la semence. Depuis la création de l'association Cocopelli en 1999, de nombreux jardiniers semenciers leur envoient une partie de leur récolte afin d'aider les communautés rurales des pays pauvres. Ces semences sont une aide précieuse, car les semences reproductibles sont devenues très rares, voire inexistantes dans de nombreux pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, et peu de jardiniers ont des moyens financiers suffisants pour y accéder. Il est donc urgent de les aider à retrouver cette autonomie en leur redonnant des semences de départ, ni hybrides F1, ni OGM. C'est à partir de 2000 que l'association Cocopelli a intensifié ses dons de semences et en a fait une de ses campagnes prioritaires. En Inde, ce sont plus de 15 000 sachets de semences qui sont distribués gratuitement chaque année. Pas une seule graine n'est vendue. En dehors de l'Inde, les dons de semences bénéficient à 70 associations communautés paysannes par an. Au total, depuis 2003, ce sont plus de 450 communautés du monde entier qui en ont été destinataires. L'association a aussi collaboré à la création d'une banque de graines en Inde, l'Anadana, dont le but est la conservation, la multiplication et la dissémination des plantes potagères anciennes. Elle a aussi participé à la création d'un centre de production de semences tropicales au Mali avec l'association Terre et Humanisme et une association malienne, l'UAVES, Union pour un avenir écologique et solidaire. Le Cap Rosette, soit le centre agroécologique de production de semences tropicales, est né dans le cadre d'un programme de sécurité et d'autonomie alimentaire au village de Tacharan. En partant du principe que sans autonomie semencière, pas d'autonomie alimentaire, ils ont mis en œuvre des jardins collectifs en culture agroécologique et récoltent leurs propres semences. Enfin, l'association Cocopelli propose aussi un manuel de production de semences, les semences de Cocopelli. Cet ouvrage présente tout d'abord plus de 200 pages d'articles sur la biodiversité, l'humus, la désertification, la confiscation du vivant, la folie des chimères génétiques et les pratiques agroécologiques, etc. La deuxième partie est un manuel de production de semences pour le jardin familial, avec des informations très détaillées permettant à tous les jardiniers et maraîchers de produire leurs propres semences en toute pureté variétale. Semences de Cocopelli présente aussi une analyse précise des processus d'érosion génétique pour chaque espèce alimentaire, ainsi que des informations récentes quant à la présence de plantes transgéniques alimentaires dans diverses parties du monde. Cet ouvrage présente une collection planétaire de 2700 variétés et espèces principalement alimentaires. Et vous pouvez vous procurer cet ouvrage sur le site de Cocopelli, donc. Alors attardons-nous un petit peu sur les banques de semences communautaires en Inde et je vais vous lire un extrait d'un article du Centre for Education and Documentation qui date de mai 2009. La révolution verte a détourné l'attention de l'agriculture indienne de la biodiversité vers une productivité accrue. Avec la modernisation de l'agriculture, les pratiques agricoles et les cultures ont changé, entraînant une perte de la diversité génétique. Pourtant, ces variétés étaient par essence plus adaptées aux conditions agricoles locales, plus pratiques économiquement et durables écologiquement que les variétés à haut rendement utilisées aujourd'hui. Elles étaient aussi plus résistantes aux insectes nuisibles, aux maladies, aux sécheresses et aux inondations. La disponibilité des semences appropriées est extrêmement importante pour l'agriculture car sans semences viables, la survie des foyers ruraux est compromise. La manière dont les agriculteurs obtiennent leurs semences est aussi vieille que l'agriculture et la plupart des petits paysans conservent leurs semences d'une récolte à l'autre. À une époque, l'Inde possédait ainsi 200 000 variétés de paddy, le riz poussant dans des champs inondés, adaptés aux terres sèches, aux terres humides ou aux eaux plus profondes, tandis que les millets parfumés étaient une culture très répandue car résistante à la sécheresse, très nourrissante et pouvant être cultivée sur des sols pauvres. Les banques de semences communautaires sont une des méthodes importantes qui assurent la sécurité des semences et préservent l'agrobiodiversité. Elles représentent aussi une protection contre la pollution et l'épuisement de l'eau, la monoculture et l'endettement des paysans. Les banques de semences communautaires stockent généralement les semences d'un large éventail d'individus, de groupes informels et d'ONG qui les partagent entre eux. Les banques de semences sont donc une forme de stockage et de diversification qui améliore la capacité des agriculteurs à faire face aux pressions économiques et environnementales. Elles facilitent l'accès des paysans au marché et leur donnent plus de choix dans leur culture. Les banques de semences permettent aux villages tribaux d'être moins dépendants des variétés à haut rendement et des intrants coûteux tels que les engrais et les pesticides. Traditionnellement, la conservation des semences revient aux femmes qui disposent d'un grand savoir sur les semences et jouent un rôle important dans la préservation de la diversité au niveau de l'exploitation. Elles décident de la quantité de semences à stocker, de la sélection des variétés et des diverses manières de les conserver. Le transfert des semences entre les individus, les foyers et la banque implique de nombreux mécanismes d'échange principalement informels, comme la foire aux semences, les prêts de semences, le troc et les transferts fondés sur les obligations sociales, mais aussi l'achat et la vente monétaire. Les populations indigènes et les communautés locales détiennent un savoir traditionnel sur l'utilisation de la biodiversité pour la sécurité alimentaire et la santé communautaire. Le développement et l'adaptation des plantes et des cultures à différentes conditions écologiques telles que les sols, les précipitations, les températures, l'altitude et la satisfaction des besoins spécifiques aux communautés en matière nutritionnelle, médicale, culturelle et spirituelle sont le produit du savoir traditionnel. Ce savoir mobilise des observations sophistiquées et complexes et une compréhension des propriétés des organismes vivants et de leur interaction avec tous les éléments des écosystèmes locaux. Prenons quelques exemples. La Green Foundation est une organisation communautaire qui travaille depuis les années 90 avec environ 4200 foyers de petits paysans répartis dans le bloc de Tali et dans le taluk de Kanakpura en Inde. La fondation a introduit le concept de banque de semences communautaires en partenariat avec d'autres organisations travaillant sur le terrain avec les communautés de petits agriculteurs où ils ont pu conserver, emprunter, prêter et multiplier leurs semences. Les semences sont données gratuitement aux membres des banques. Toute personne de la communauté peut devenir membre en payant une taxe annuelle nominale. Ils sèment les semences, font la récolte, puis redonnent aux banques le double de la quantité de semences reçues afin de réapprovisionner les stocks. La banque de semences travaille sur le traitement des semences, leur sélection, le maintien des enregistrements des besoins et la planification pour la saison prochaine. De plus, le paysan est encouragé à mettre de côté une partie de son approvisionnement en semences pour le semis, les échanges entre paysans et la vente sur le marché. Ces banques sont gérées par des groupes de femmes qui disposent des compétences pour sélectionner les semences et maintenir la germination à un niveau qui améliore leur performance. Le travail des femmes implique la cartographie des semences qui consiste à réunir les informations sur les variétés en voie d'extinction ou tombées dans l'oubli et à en collecter de petites quantités. La fondation les multiplie en les faisant pousser sur de petites parcelles et en mettant en place des banques de semences. La Green Foundation organise aussi des foires, des voyages de semences et des expositions où les agriculteurs interagissent, prennent conscience de la nécessité de conserver l'agrobiodiversité et échangent des semences. On peut également parler de la Duncan Development Society, société de développement du Deccan, DDS, qui travaille avec des associations de volontaires de femmes, principalement des travailleuses agricoles intouchables de 60 villages pauvres du district de Médac. Le projet de banque de gènes communautaire initié par la société considère que le commerce des semences offrira à ces femmes l'occasion d'entrer sur le marché une fois qu'elles produiront de bonnes semences. DDS compte sur l'émergence d'un nouveau contexte où les produits agricoles biologiques et non hybrides seront très demandés. Cela se fera au bénéfice des femmes qui cultivent des plantes traditionnelles sans produits chimiques. Trois initiatives principales ont été entreprises par la société dans le cadre de ce projet. Un système de distribution publique alternatif ou fonds de grains communautaires, le développement à grande échelle des terres à l'abandon et la culture de semences traditionnelles avec l'établissement de banques de semences décentralisées au niveau des villages appelés fonds de gènes communautaires. Et puis, pour se mobiliser ici et maintenant, rejoignons la campagne « Semons la biodiversité ». Initiée par le collectif Semons la biodiversité, qui défend l'idée d'une loi de reconnaissance positive des droits des agriculteurs par la libération des semences paysannes et fermières. De nombreuses associations et collectifs se sont associés à cette campagne, que vous pouvez retrouver sur le site internet www.semonslabiodiversité.org. Le collectif, appelé encore tout récemment, à un rassemblement pour la libération des semences paysannes le 28 novembre 2011 devant l'Assemblée nationale pour exiger le retrait de la proposition de loi sur les obtentions végétales. Mais qu'est-ce que c'est encore que ça? Eh bien encore une nouvelle offensive menée par le gouvernement. Pour une majorité d'espèces végétales, comme les légumes, ce texte propose d'interdire aux paysans d'utiliser leurs semences issues de leurs récoltes. Pour les 21 espèces pour lesquelles l'Europe autorise les semences de ferme, comme le blé ou les pommes de terre, ce texte contraint les paysans à payer des royalties. En favorisant la confiscation de toutes les semences par des droits de propriété industrielle, le vote de cette proposition de loi porterait une atteinte inacceptable à la sécurité alimentaire et menacerait la liberté de ressemer ses propres graines au lieu d'en racheter. Et puis aussi, chacun de nous, nous pouvons produire des graines et surtout arrêter d'acheter des semences hybrides F1. C'est marqué sur le sachet à chaque fois. En se tournant vers les semenciers alternatifs. Oh, et puis il y a la guérilla potagère. Eh ben, puisqu'ils nous bombardent avec leurs plantes dégénérées, on n'a qu'à riposter à coups de poignées de graines de courge balancées dans les fossés ou les terrains vagues. I'm afraid of change and choking, being alone with the devil. I'm afraid of white men, I'm afraid of all governments, I'm afraid of ignorant politicians, I'm afraid of censorship, I'm afraid of censorship. Pour en savoir plus et y a de quoi faire, rendez-vous sur internet sur le site de réseaugm.info, également le réseau Cohérence sur www.réseaucohérence.org. De nombreuses informations sur l'actualité des OGM en France et la campagne actuelle de mobilisation sur www.semonslabiodiversité.org. Pour trouver des semences alternatives, le réseau Semences Paysannes et l'association Cocopelli. Et puis l'excellent film de Colin Serrault, Solution locale pour un désordre global, dont on a pu écouter quelques extraits dans cette émission. Les ouvrages et le film de Vandara Shira, le film de Marie-Monique Robin, Le monde selon Mosanto. le numéro de l'âge de fer du mois de novembre qui est consacré aux OGM, et puis quelques sources, un article de Hayat Ghazan publié le 1er septembre 2010 sur figaro.fr sur les suicides de paysans en Inde, et ma source préférée, Wikipédia. Rendez-vous à Parsemont, les premières rencontres pour des semences paysannes et fermières, c'est à Angers, c'est en novembre. Bon, c'est passé pour cette année, mais on ira l'an prochain.
Comment souffre pour toi, mon...
Et puis la musique, un morceau de Ella, Code Dry, Dom, Dapnom, Agathe Max et Eco War.
Avec Radio Girafe, on prend de la hauteur.
Ils ont dépensé des milliards là pour faire l'ADN de l'homme. Et puis, il y a quelques plantes dont on connaît l'ADN. Il y a l'orge maintenant, le coton, la vigne. Enfin bon, il y a quelques plantes dont on a fait l'ADN. Et alors, ils ont été terriblement vexés. L'orge a deux fois plus de gènes que nous. Donc, parce que tous ces hommes-là, ils pensaient qu'évidemment, l'être humain, forcément, comme on était les plus intelligents, c'était nous qui avons le plus de gènes. Elle en manque de peau, l'orge en a deux fois plus que nous. Et c'est une plante. Et alors là, ils sont très, très emmerdés parce que là, comme il y a une partie immense de l'ADN qui ne comprennent pas, ils ont appelé ça junk ADN, ADN de merde. C'est pour eux, c'est l'ADN qui sert à rien. Ils sont tellement cons qu'ils pensent que la vie, depuis des millions d'années, fabrique cette molécule qui est la plus coûteuse en énergie du monde vivant pour rien. On fait ça pour rien, quoi. Ils sont d'un niveau de connerie, les généticiens, qui est absolument hallucinant. C'est quelque chose qui vous laisse pantois.